France Musique. France Musique, les grands entretiens. Benjamin François.
Florence Malgoire, née un 9 mars après minuit à Dugny, et je suis violoniste.
Florence Malgoire, vous n'avez pas fait que partie d'ensemble avec les chefs que nous avons cités, mais il y a aussi vos propres ensembles.
Oui.
Je pense notamment au Domino, par exemple, ensemble spécialisé sur la musique des 17e et 18e siècles. Pourquoi avoir fondé cet ensemble, votre ensemble ?
J'avais des projets de concerts, d'enregistrement, et c'est beaucoup les organisateurs de concerts qui demandent un nom d'ensemble. Moi, je serais pour, si on joue à 4 ou 5, de simplement donner les noms des musiciens. Mais c'est souvent demandé. Et puis, les dominos, c'est lié à Couperin. Ces dominos, des affects, des couleurs, ça m'a parlé. Et, je voulais l'appeler Flore et les Jeux. Puis, certains m'ont dit, oh ben non, tu fais comme ton père avait un ensemble qui s'appelait Flore et les Jeux. J'y avais pas pensé, effectivement. Bon, donc, voilà. Flore et les Jeux, c'était dans Atis aussi. Les dominos. À géométrique variable, où j'ai fait pas mal d'enregistrements.
Que deviennent les dominos dans le temps?
Les dominos, ben, forcément, ça change selon les projets et selon les vies. J'ai eu 3 ensembles. Amalia, avec Philippe-Alain Dupré, Marianne Muller et Alice Boraïche. Les Nièces de Rameau, avec Alice Pierrot, violoniste complice, Marianne Muller, Anne-Lyne Zilberreich, et puis les dominos, où là je me suis dit, je vais aussi choisir selon les répertoires, les affinités. Les musiciens vont aussi bouger selon les programmes.
En fait, il y a une envie de création, l'ensemble vit. Est-ce que le fait que l'ensemble puisse mourir, c'est aussi dans un projet dès le départ, ou ça vient comme ça avec la vie et...
Alors, pour moi, je pense jamais à la mort ou à la fin des choses. Donc, je pense plutôt à maintenant et l'avenir. Mais effectivement, j'ai vécu la mort d'ensemble, de plusieurs. Parfois, tout simplement, c'est les causes de déménagement, les musiciens. Parfois, si c'est un ensemble démocratique, on va dire, les tâches doivent être très bien réparties. Savoir qui fait quoi, et puis accepter qu'on n'est pas toujours à la même vitesse, accepter l'autre aussi. Si c'est vraiment quelqu'un qui porte l'ensemble, comme c'est souvent le cas, on peut jouer à 2 ou à 3, et on voit le nom de l'ensemble et son créateur, même si c'est tout simplement de la sonate. Ça m'a semblé toujours un peu curieux, mais bon, c'est souvent comme ça. Mais c'est aussi que la personne qui porte l'ensemble porte pas seulement le moment du concert, mais tout ce qu'il y a autour, c'est ce qui est énorme. C'est-à-dire chercher les concerts, concevoir les programmes, chercher les partitions, s'il n'y a pas de structure vraiment, parce que souvent... Alors, à ma génération, on a été habitué à quelque chose de très artisanal. Hein, je sais que maintenant, c'est beaucoup plus structuré. D'ailleurs, dans les études des étudiants, il y a des masters maintenant de gestion pour œuvrer pour la musique.
Est-ce que vous avez vu d'un bon œil cette parcellisation des tâches entre l'administrateur, celui qui s'occupe des réseaux sociaux, celui qui s'occupe de la presse, on pourrait continuer comme c'est longtemps comme ça, mais entre l'administration des arts florissants et les dominos, on a 2 modes de fonctionnement qui sont très différents.
Ah oui, mais c'est même pas comparable. Entre un ensemble de musique de chant, puis un orchestre comme ça, d'une telle envergure, qui a un rayonnement et tellement de concerts. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai un modèle que je trouve remarquable. C'est le Freiburg Orchester, qui les musiciens sont sociétaires de leur ensemble, puisque ça va du trio à l'orchestre symphonique, et puis la musique 17e à la musique romantique sur instrument d'époque. Et à ma connaissance, ils sont 2 au bureau à gérer tout ça. Mais toutes les questions artistiques, Ce sont les musiciens qui les gèrent, ça doit être compliqué parce que voter oui à plusieurs et puis se coopter, se mettre la pression pour que ce soit toujours au top niveau. Je dis pas que ça doit être facile, en tout cas je pense que c'est peut-être pas dans un esprit français, peut-être individualiste, pardon, de dire ça. Mais pour moi c'est un modèle, je trouve ça assez exceptionnel en fait.
Sachant qu'ils ne sont pas intermittents du spectacle non plus.
Oui, en Allemagne oui, ça n'existe pas.
Florence Malgoire, le violoniste, il est primus inter pares, il peut diriger du violon comme le claviniste peut aussi diriger du clavecin. Mais il y a des fois, vous quittez le violon, notamment à Genève, et bien vous vous êtes retrouvé à la tête d'un ensemble.
Oui, alors c'est mon père qui un jour m'a dit, tu sais Florence, tu devrais vraiment essayer de diriger, tu diriges très bien du violon, mais tu devrais essayer de diriger des mains et faire jouer les autres. Connaître cette sensation et connaître ce que c'est. Et donc, je me suis exécutée, je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai. Et j'ai dirigé un certain nombre d'œuvres, les motets de Rameau, Requiem de Mozart, Pygmalion de Rameau. Mon père était venu quand j'ai dirigé le Requiem de Mozart, et il était fier comme Artaban. À la fin, d'ailleurs, il m'a dit, le Lacrymosa, c'est vraiment trop lent. Vraiment trop lent, comme je suis une pleureuse. Voilà, c'était sa manière de me dire non, t'épanches trop là. Et c'est une carrière que j'ai pas poursuivie parce que je me suis rendu compte, bon, d'une part que si on s'engage dans une carrière de chef d'orchestre, on doit s'y consacrer totalement. On doit avoir une technique aussi, voilà. Je pense que je suis douée pour ça, mais je n'ai pas le temps tout simplement aussi. Donc, et puis j'ai tellement besoin de jouer du violon et j'aime tellement diriger du violon, le répertoire baroque classique. J'ai enregistré aussi des symphonies classiques de Fritz et Schwindel pour claves, donc de musique du siècle des Lumières, avec justement des grands étudiants, des anciens et des actuels. Voilà, c'est le volet de la direction. Ça sera dans une autre vie.
Thank you. Florence Malgoire, il y a un aspect que le violoniste doit absolument intégrer, c'est qu'en face de lui, s'il est un jardin, ça se passe à court ou au milieu, il y a une bande de fous qui s'occupe que rythmiquement, ça arrive à l'heure. Ce sont les continuistes.
Ah, les continuistes. J'ai une admiration sans borne pour les continuistes. Ils sont la colonne vertébrale, bien sûr, mais ils sont aussi la polyphonie, ils sont l'invention, parce qu'un peu comme dans le jazz, ils ont une grille, ils ont des accords avec des chiffres, et puis ils improvisent. Et c'est vrai que ce soit dans le répertoire d'orchestre, de symphonie, dans le répertoire des opéras classiques aussi, où il y a les récitatifs, c'est des musiciens, tout c'est exceptionnel. De jouer avec un claveciniste ou un autre va complètement changer la texture, les articulations. J'ai eu beaucoup de chance, parce que quand j'ai enregistré les sonates du Rosaire de Bieber, de Franz Nias Bieber, j'ai pu choisir mon continuo, donc Blandine Rano, Guido Balestracci à la viole de gambe et au lyrone, Angélique Moyon à la harpe, Jonathan Robin à la guitare et au théorbe, et Richard Myron au violone. Et donc on a pu aller dans toutes les textures, selon les affects, puisque c'est une musique totalement d'affect, avec le violon en scordatour, avec chaque sonate qui représente un épisode de la vie de Jésus, vu par Marie. Donc il y a des accords en quinte du violon, des accords enfin en scordatour, où Bieber a exploré jusqu'à croiser les cordes dans la résurrection, où les deux cordes du milieu sont croisées. D'ailleurs, je voudrais remercier Patrick Robin, mon luthier. J'ai joué avec deux de ses violons et on a pas mal expérimenté parce qu'il fallait, pour ses scordatours, trouver des réglages. Et la solution qu'on a trouvée, c'était un très bon réglage d'instrument, mais des changements de cordes, de calibre de cordes. Et ça, on a cherché ensemble, et ça a été formidable. Tous ces continuistes qui jouaient, là, Angélique ou Blandine, Angélique Moyon ou Blandine Rano, elles ont une telle inventivité, c'est des improvisateurs. Moi, je relie ça avec le jazz, évidemment, selon des règles bien précises. Mais c'est pour ça que, alors oui, pour les éditions de musique, évidemment, un musicien qui apprend le continuo ne peut plus lire sur une partition où le continuo est figé par l'éditeur, où tout est écrit. C'est absolument impossible. C'est anti-créatif au possible.
France Musique, les grands entretiens de Florence Malgoire.
Depuis plus de 20 ans maintenant, vous êtes professeur de violon baroque à la Haute École des Arts de Genève. Cette fonction de professeur, j'ai l'impression qu'elle vous anime complètement.
Ah, la transmission me passionne depuis très longtemps. Avant de passer le concours pour rentrer à Genève en mai 2000, j'avais donné des stages. Je me disais, tiens, je vais me poser un peu, puis j'ai envie d'éprouver une classe dans la régularité, puis de transmettre, de comprendre comment faire avec des étudiants qui pourraient avoir des difficultés, d'autres qui sont très doués, ben, comment faire aussi avec eux pour les guider encore mieux dans leurs projets. Puis j'ai été choisie et donc c'était le conservatoire, à l'époque ça s'appelait Conservatoire supérieur de Genève, qui est devenu Haute École de musique à Genève. Je suis très heureuse d'être là et ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis maître de mon bateau et puis ça draine de l'humain et c'est des jeunes gens, tous ils ont au minimum un bachelor et voire un master quand ils s'intéressent au violon baroque. Donc c'est une énorme richesse parce que J'essaye aussi d'adapter ma pédagogie au cas par cas. Un étudiant qui a des difficultés de coordination, je vais essayer de trouver comment dénouer ça, ou si c'est juste un savoir-faire à développer, une technique à développer, ou l'aider à s'exprimer, l'aider à créer sa propre interprétation. Et puis moi, alors là, il y a un moment que j'adore, c'est quand les étudiants commencent à s'opposer et à dire « Ah non, non, mais moi, je veux faire ça comme ça, et comme ci, et puis tel traité a dit ça, et puis voilà. » Et puis qu'ils prennent leur envol. Alors ça, c'est un moment magique. C'est à chaque fois un petit deuil, évidemment, mais c'est magique. Et puis, de jouer avec mes étudiants, cet été, j'ai joué avec Amandine Solano, qui est une ancienne étudiante, une merveilleuse violoniste, merveilleuse personne. Je suis invitée dans l'ensemble d'une de mes anciennes étudiantes, Stéphanie de Failly, que j'avais invitée au domino pour jouer les sonates de Couperin. C'est un disque que j'aime beaucoup, qu'on a enregistré, avec Blandine Rannou, Amélie Michel, Serge Seita, Jonathan Rubin, Isabelle Saint-Yves, Guido Balestracci, Stéphanie de Failly et moi. Et Stéphanie, je lui disais, mais invite-moi dans ton ensemble, je viens jouer deuxième violon. Elle m'a dit, mais c'est pas possible que je t'invite en deuxième violon. Si, 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 bah, je lui dis, on joue à la tierce, moi je t'ai invité en deuxième violon. Et chose faite, elle m'a invitée, j'étais très, très, très heureuse. Galante pour Médée de Charpentier que j'avais fait avec Leonardo Garcia Larcón, tous les violonistes à Genève étaient passés par ma classe. Tout d'un coup, je me suis retrouvée avec tous mes anciens élèves. Et ah bon, comme dirait mon père, ça sent le sapin. Mais bon, c'est un bonheur quoi. J'aime vraiment enseigner et puis je suis tout le temps dans le violon. Du coup, les étudiants très doués qui sont curieux, ils apportent des nouvelles pièces, de nouvelles questions. Et puis, si on donne un exemple, ça doit être convaincant pour l'étudiant. Ah oui, non, j'aime beaucoup. Et puis là, je trouve que les cursus sont, j'ai les envies. J'ai tellement envie des fois d'avoir une année où je retourne sur les bancs d'école à faire du continuo, faire du contrepoint improvisé.
Justement, la question que je voulais vous poser, vous auriez eu envie de vous retrouver étudiante maintenant, en 2021? Vous dites que les choses sont plus faciles pour les étudiants d'aujourd'hui?
Plus facile, je ne sais pas si c'est plus facile parce que c'est plus questionnant. Moi, j'ai eu du travail, j'étais étudiante, j'ai appris
Elle a appris
tout en
sur le tas,
faisant,
beaucoup de choses.
voilà. Plus autodidacte puisqu'il n'y avait pas tous ces cursus et il n'y avait pas non plus la possibilité de d'internet d'avoir donc voilà c'est vraiment tout à fait différent mais là c'est quand même rare que les violonistes enfin ma génération fassent du continuo par exemple là c'est demandé aux étudiants. Il y a bien sûr des violonistes qui ont un très bon niveau de clavier, d'autres pas, il y a tous les cas de figure. D'ailleurs, me vient tout de suite une pratique historique pour les violonistes de s'accorder avec les pédales de l'orgue. Et il y a un très joli enregistrement d'Emmanuel Dauvin, qui est violoniste, et qui a enregistré du Bieber en jouant avec les pieds. Et là, j'ai un nouvel étudiant qui arrive, là,
Comme Nicolas
vénézuélien.
Brune, ça a son temps aussi.
Oui! et qui m'a posé la question là par mail. Il va arriver, il a eu son visa, tout ça. Il m'a posé la question, est-ce que je pourrais faire de l'orgue? Donc je me suis dit, celui-là, je vais lui proposer de s'accompagner à l'orgue. La formation que j'ai faite pour aider les étudiants à travailler sur le trac, c'est la sophrologie. Une formation super passionnante. Parce qu'être musicien, c'est pas seulement savoir jouer, c'est aussi pouvoir jouer devant un public. Et le trac, c'est. Enfin, moi, j'ai le trac et j'ai appris à vivre avec le trac, à le transcender, à me dire que si je tremble un peu, j'aurais peut-être un son fragile, qui est la fragilité humaine. Donc j'ai travaillé là-dessus sur l'ancrage, sur la respiration, sur la préparation, sur se préparer mentalement aussi. Avec mes étudiants, j'essaye beaucoup de les faire jouer devant les copains, qu'il y ait beaucoup d'auditions, qu'ils puissent jouer dans tous les lieux possibles. C'est tellement différent de jouer devant une classe, de jouer devant un public. Aussi une façon de vaincre le trac, c'est aussi de se dire, mais le public vient parce qu'il aime la musique. Je sais tellement que la musique, l'art est essentiel dans les moments de deuil qu'on peut tous traverser, des coups durs de la vie, ou la pandémie, ou c'est ce qui ressource. Je crois que c'est pas pour rien qu'existe la musicothérapie. Moi, je sais quand bon, mon petit frère est décédé, c'était un tel choc. Je ne sais pas ce que je serais devenue si j'avais pas la musique. Il n'y a pas un concert qui ne lui est pas dédié. On est quand même dans l'invisible, dans la spiritualité, qu'on soit croyant ou pas. D'ailleurs, c'est des moments de grâce, c'est totalement magique. Et puis, de quoi est capable l'humain? Quand je vais à un récital de piano et que je vois cette dextérité des mains, de ces musiciens, des pieds à la tête qui arrive à sortir, à émouvoir. Alors, c'est un travail. Le travail d'apprentissage de la musique est assez fascinant parce qu'il passe par l'intellect, bien sûr, mais aussi par tout l'être et par les sens. Et en cela, c'est inépuisable.
La chacotte de la sonate à 8 de Marc-Antoine Charpentier par les dominos de Florence Malgoire au violon baroque et à la direction. Fin de cette série de grands entretiens, réalisation Gilles Blanchard, prise de son Thomas Robin, mixage Benjamin Vignal, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.